Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Combien seront-ils à manifester le 22 mars prochain? Sans doute assez nombreux, à en juger par l'effervescence qui règne ces jours-ci dans les organisations syndicales. L'ensemble de la fonction publique est appelé à se mobiliser pour peser face aux choix du gouvernement. Début février, celui-ci a présenté les grandes pistes de la réforme de l'État qu'il entend mener dans les prochains mois. Conformément à la promesse du président de la République, il s'agit de diminuer le nombre d'agents via un plan de départ volontaire et de recourir davantage aux contractuels, une façon d'amoindrir le statut des fonctionnaires sans forcément y toucher. Ce sera plus direct à la SNCF. Édouard Philippe l'a annoncé en début de semaine dans la foulée du rapport Spinetta sur l'avenir du transport ferroviaire. À l'avenir, a dit le Premier ministre, à une date qui sera soumise à la concertation, il n'y aura plus de recrutement au statut. Alors le statut, source d'iniquité, de rigidité, de gaspillage pour les uns, garantie de protection, d'impartialité et de progrès social pour les autres. Alors fonctionnaires, cheminots, faut-il déboulonner les statuts? C'est la question qui va nous occuper donc jusqu'à 19h en compagnie de deux invités ce soir. Luc Berry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de l'UNSA, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, qui a un ancrage important chez les fonctionnaires, chez les cheminots. Vous appelez d'ailleurs à manifester, à faire la grève le 22 mars prochain.
Alors, nous appelons à manifester chez les cheminots, mais nous ne sommes pas partie prenante du mouvement chez les fonctionnaires. Parce que chez les fonctionnaires, nous estimons que c'est largement prématuré. Il doit y avoir des discussions qui doivent s'ouvrir. Donc à l'UNSA, nous sommes une organisation réformiste. Nous allons rentrer dans la discussion et nous avons décidé de ne pas participer au mouvement du côté de la fonction publique.
Alors pour discuter avec vous ce soir, Luc Berry, Arnaud Bichon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en management à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, chercheur à l'IREG, l'Institut de recherche en gestion et en économie, et contributeur régulier au site contrepoint.org, qui est un site libéral. Et vous venez de signer, c'est d'ailleurs l'article qui est en une du site aujourd'hui, « Statut des cheminots, pourquoi il faut le supprimer ?» Alors justement, je vous propose de commencer par ce « Statut des cheminots » et par une des raisons que vous évoquez dans votre article, Arnaud Bichon, pour supprimer ce statut, c'est celui de son coût. Vous expliquez que le statut des cheminots coûte trop cher et qu'il pénalise financièrement la SNCF.
Oui, alors tout à fait. Donc ça, c'est un des éléments intéressants du rapport Spinetta, puisque il faut rappeler que donc le projet de réforme qu'a lancé le gouvernement fait suite à un rapport qui était très détaillé, très intéressant. Et donc là, sur les aspects financiers, sur les aspects de masse salariale, ce qui était intéressant dans le rapport de Spinetta, c'était de montrer la relation justement entre le statut et l'évolution de la masse salariale. C'est-à-dire que dans ce statut, ce qu'il y a, ce qu'on retrouve fréquemment dans tous les statuts de la fonction publique, c'est une augmentation qui est prévue, planifiée, indépendamment des contributions de la personne, indépendamment des résultats économiques de l'entreprise. Donc, si vous voulez, il y a un mécanisme qui fait que la progression de la masse salariale va toujours vers de plus en plus haut. Et puisqu'il y a un deuxième aspect qui est lié à ça, c'est le fait que on a un statut avec un emploi garanti à vie. Donc qu'il n'y a pas de maîtrise, si vous voulez, sur la masse salariale qui évolue fatalement, si vous voulez, indépendamment des performances.
Est-ce que ça veut dire que pour Arnaud Bichon, si le statut de la SNCF était supprimé, l'entreprise pourrait se retrouver dans une meilleure situation financière qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si son PDG Guillaume Pépi vient aujourd'hui d'annoncer qu'il y avait eu des bénéfices sur toute la partie d'ailleurs de transport des personnes?
Alors, plusieurs éléments de réponse. La réforme qui vient d'être lancée ne va pas solutionner quoi que ce soit, dans l'immédiat, à court terme. Donc là, il ne faut pas rêver. Ça ne va pas évoluer, puisque ce qui va changer, ce qui changera, c'est les contractuels qu'on pourra recruter en complément. Des personnes statutaires. Donc là, pour l'instant, il va falloir attendre, si vous voulez, pour qu'il y ait des effets sur la masse salariale. Donc les effets ne vont pas être immédiats.
En tout cas, sur le constat, Luc Berry, est-ce que vous pourriez partager celui d'Arnaud Bichon, de dire que ce statut contribue, en tout cas, à peser lourdement sur les finances de la SNCF?
Je ne partage pas ce point de vue pour une raison, c'est que moi je ne vais pas éluder la question, mais je pense que la question de l'ouverture au marché, du marché ferroviaire à la concurrence, par déclinaison d'une décision européenne, amène à se poser une autre question que celle du statut. Ça veut dire qu'il va y avoir une entreprise SNCF qui devrait rester une entreprise publique, semble-t-il, on va voir. Et le vrai sujet, c'est de savoir comment est-ce que cette entreprise publique, si elle existe, va évoluer sur un marché qui désormais sera concurrentiel. Or, une entreprise, quand elle évolue sur un marché concurrentiel, elle doit, comme n'importe quelle entreprise, que ce soit du ferroviaire ou d'autre chose, elle doit être en capacité d'investir, elle doit être en capacité d'offrir un service de qualité, de sécurité, etc. En particulier, dans le domaine ferroviaire, c'est extrêmement important. Et la caractéristique de cette entreprise SNCF, c'est qu'elle est plombée par son haut niveau d'endettement, mais un haut niveau d'endettement qui ne résulte pas d'un choix de mauvaise gestion de l'entreprise SNCF, mais qui résulte de choix de gestion qui ont été faits, notamment d'investissement sur les lignes à grande vitesse, qui ont plombé effectivement cette entreprise.
Oui, mais la SNCF n'aura-t-elle pas davantage de capacité à investir si sa masse salariale est moindre et donc si le statut est supprimé pour les nouveaux entrants?
D'abord, la SNCF a un peu plus de 40 milliards de dettes. Bon, donc elle va arriver sur ce marché ferroviaire en étant lestée de 43, je crois, 43 milliards de dettes. Bon, on n'est plus un milliard près, hein. Bon, 43 milliards de dettes. Il faudra qu'elle soit effectivement sur ce marché en capacité de décrocher des marchés. Et avec une contrainte que nous souhaitons garder, qui est une contrainte de service public. Parce que vous savez, pour desservir un certain nombre de lignes, je ne suis pas persuadé que ça se bouscule au portillon du côté des entreprises privées. Ce qui intéresse les entreprises privées, c'est les lignes qui sont rentables. Voilà. Et le propre du service public, c'est qu'il y a des lignes qui sont rentables au-delà de la SNCF plus que d'autres. C'est là où d'ailleurs elle fait son chiffre et qu'elle peut équilibrer avec d'autres lignes qui sont beaucoup moins rentables. C'est pour ça que le sujet qui est esquivé pour le moment, mais qui est fondamental, c'est quelle place est-ce que cette entreprise de service public pourra occuper dans un marché ouvert à partir du moment où elle est plombée par cette dette. Alors, sur ce que vous dites sur le statut et le coût, la masse salariale, je fais juste observer que quand on connaît un petit peu le marché ferroviaire aujourd'hui, puisqu'il y a déjà des entreprises privées qui sont sur ce marché-là, prenez Veolia par exemple, les salariés de Veolia sont régis par des conventions collectives, comme tous les salariés, hein, qui fixent des éléments de référence salariale. Soit on va vers la convention collective du ferroviaire, soit on peut décider d'aller vers d'autres conventions collectives. C'est le cas à Veolia, où on prend plutôt celle du bâtiment, des travaux publics. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus intéressante, et étant plus intéressante, on attire davantage de personnes pour y travailler. Je rappelle que c'est ça l'origine du statut de la SNCF.
Oui, parce qu'il faut rappeler que ça,
c'est d'abord pour fidéliser des salariés qui fuyaient effectivement dans les différentes compagnies qui pouvaient être amenés à fuir ces métiers, et il a fallu par le statut essayer de les fidéliser.
Et c'était le fait d'ailleurs de compagnies privées. Arnaud Bichon, est-ce que finalement vous ne faites pas porter la responsabilité des difficultés financières aux seuls cheminots du fait de leur statut? Et est-ce que, comme le dit Luc Berry, les vraies difficultés de la SNCF, elles ne sont pas à voir ailleurs? Et finalement, changer le statut, supprimer le statut des cheminots, est-ce que véritablement ça aurait un effet sur la compétitivité, disons, de cette entreprise dans une perspective d'ouverture à la concurrence?
Alors, j'aurais deux niveaux de réponse. Premier niveau, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Béril lorsqu'il dit que tous les torts ne doivent pas reposer sur les épaules des cheminots, hein, et du statut. C'est une évidence, et c'est d'ailleurs rapporté très clairement dans le rapport Spinetta, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu, on va dire, du mal investissement, c'est-à-dire de la mauvaise décision politique. C'est-à-dire que l'un des gros soucis de la SNCF, c'est qu'elle est un petit peu sous le jeu, les pressions des lubies politiciennes, hein, tel politicien veut sa petite gare, sa petite desserte, le TGV, par exemple, la récente ligne Tours-Poitiers fait débat. Hein, les élus locaux l'ont voulu à tout prix, et a priori, les premières estimations, cette ligne ne risque pas d'être très rentable. Donc voilà, il y a des vraies questions à ce niveau-là, et on le sait. Et ce qui ressort clairement du rapport Spinetta, c'est que effectivement, d'un côté, il y a des investissements qui auraient dû être faits, et donc il y a des lignes qui souffrent, qui sont vieilles, qui sont anciennes et qui sont utilisées. Et d'un autre côté, il y a une forte proportion de la contribution publique, hein, je crois dans les 15-20%, qui servent à financer finalement des lignes qui vont être utilisées seulement par 2% des voyageurs.
Donc le problème, c'est pas le statut.
Donc ça c'est un premier élément. Ça c'est un premier élément qui est vrai. Les salariés, donc les cheminots, et puis le statut est également en cause. Alors, tout d'abord, on a vu l'histoire du coût, hein, tout à l'heure. Je peux juste amener un élément supplémentaire, si vous voulez. Finalement, on pourrait avoir une masse salariale très élevée. Ce ne serait pas si gênant que ça. Face à cela, il y avait une productivité. Et s'il y avait une qualité de service, hein, ce serait pas gênant. Finalement, on a 8 milliards là, à peu près de dépenses de personnel. Ce serait pas si gênant que ça. Sauf que quand on regarde et quand on met en vis-à-vis finalement le chiffre d'affaires total, hein, total, fret plus voyage, quand on met ce chiffre d'affaires en vis-à-vis de la masse salariale, eh bien, on se retrouve quasiment à 1 euro dépensé pour 1 euro de chiffre d'affaires.
Et ça, on peut y voir un effet du statut.
C'est-à-dire, c'est une très mauvaise productivité.
Est-ce que justement, Arnaud Bichon, et ça peut permettre aussi de parler du statut des fonctionnaires, parce que finalement, les mécanismes peuvent être assez identiques. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'à partir du moment où il y a un statut, donc il y a un certain davantage afférent à ce statut, ça réduit la productivité parce qu'on sait qu'on est employé à vie? Et donc, que quoi que l'on fasse, ou presque, parce qu'il ne faut pas non plus croire qu'on ne peut jamais être sorti de la fonction publique, mais en gros, que ce statut-là vous protège de tout, y compris d'une forme, comment dire, de non-activité, ou de faible productivité.
On peut le penser, hein, on peut le penser. Enfin, alors, d'autant plus que là-dessus, il y a énormément de travaux académiques, hein, qui montrent que, si vous voulez, l'implication du personnel dépend essentiellement d'un engagement des salariés sur le contenu de travail. Hein, c'est-à-dire quand j'ai ma reconnaissance professionnelle, si vous voulez, elle dépend de ma contribution. Donc, par exemple, on sait, hein, d'un point de vue de la gestion des ressources humaines, que lorsqu'on met en place des processus et des outils davantage focalisé sur l'individu et sa contribution, eh bien, on va davantage impliquer les personnes que lorsque elles sont reconnues, valorisées à travers leur statut.
Alors, je le disais, Luc Berry, ça peut toucher aussi bien les cheminots que les fonctionnaires. Je sais que j'ai un emploi a priori à vie. Je sais que mon déroulement de carrière et mes augmentations de salaire vont se passer de manière quasi automatique. Donc, c'est une source de démotivation. Donc, ça conduit à une moindre productivité de l'entreprise ou du service pour lequel je travaille. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît pertinent comme analyse ?
Moi, ça me paraît pas forcément très pertinent. On évacue juste une petite question, c'est la question du service public. Et pour celles et ceux qui y travaillent, la question de l'esprit de service public. Quand on est salarié de droit privé, on n'est pas un bandit qui s'en fout ni loi, etc. Simplement, on travaille dans une entreprise dont l'objectif, et c'est normal, est la recherche du profit, il faut avoir de la rentabilité, etc. Alors, le but d'un service public, c'est pas de perdre de l'argent, c'est notre argent dont on parle, hein, c'est l'argent des contribuables. Donc, il faut effectivement être très rigoureux sur la façon dont les choses sont gérées. Il ne s'agit pas de gaspiller de l'argent public. Simplement, les objectifs d'une entreprise ou d'un service public ne peuvent pas être les mêmes strictement que celui d'une entreprise privée. Alors, le point commun dans tout ça, c'est que pour être productif, qu'on soit agent public ou qu'on soit salarié de droit privé, on l'est d'autant plus que on est impliqué et reconnu dans son travail, et y compris qu'on est d'ailleurs reconnu financièrement dans son travail.
Bon, mais le statut, c'est par exemple le statut de fonctionnaire, c'est une forme de reconnaissance.
C'est une forme de reconnaissance, mais c'est une forme de contrainte aussi. Les auditeurs qui nous écoutent là en ce moment peuvent se dire « Ah, c'est parfait, c'est la belle vie, le travail est garanti à vie ». Bon, oui, il y a une garantie d'emploi, c'est vrai, mais qui correspond aussi à la nécessité d'une pérennité de l'activité. Hein, du jour au lendemain, vous scolarisez votre enfant dans une école. Si on vous dit « Ah bah tiens, c'est pas de chance, là, à la rentrée, l'école ferme », parce qu'on a mis la clé sous la porte. Bon, on a décidé que le droit à l'éducation, par exemple, c'est un droit auquel tous les citoyens doivent avoir droit, et si possible, en tout cas, dans des conditions d'égalité d'accès. Bon, donc ça veut dire que moi je suis savoyard aussi. Dans un certain nombre de petits villages de Savoie, ça coûte très très cher le service public. C'est la collectivité qui paye. Et si on étend effectivement, parce qu'on estime que c'est un droit, et si on étend ce raisonnement dans la pratique, c'est le débat sur les petites lignes, évidemment, vous doutez bien qu'une entreprise privée ne va pas investir dans des lignes qui sont peu fréquentées, parce que le rapport entre l'investissement et le fonctionnement l'argent qu'on va en tirer est un rapport qui est déficitaire. Alors, des entreprises privées sont capables d'investir parfois et d'investir à perte. C'est ce qui se passe en ce moment avec les fameux cars qu'on a appelés les cars Macron. Pour le moment, les trois grosses compagnies qui sont sur ces cars-là sont des compagnies qui, pour le moment, sont déficitaires. Bon, elles peuvent se le permettre pour le moment, mais à terme, elles pourront plus se le permettre. Donc, il faut intégrer dans tout ça ce qu'on appelle l'esprit de service public et les missions de service public. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur ce sujet-là. Et je termine juste pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure. Quand le gouvernement ne dit pas un mot de la dette de la SNCF et qui nous dit que cette entreprise de service public va devoir améliorer sa productivité, sa qualité, etc., etc., on ne peut que souscrire à ça, sauf que comment va-t-elle le faire? Et je rappelle que ce qui est prévu, c'est un changement de statut de l'entreprise. Hein? Alors, c'est un débat un peu technique, mais la principale caractéristique de nouveau statut auquel pense le gouvernement, une société anonyme, hein, une USA, donc publique, dont les capitaux seraient tenus par l'État, c'est notamment qu'elle ne pourra pas emprunter avec la garantie de l'État. Donc, vous êtes une entreprise qui a 43 milliards de déficit, vous ne pouvez pas emprunter avec la garantie de l'État. Or, un des éléments fondamentaux, c'est l'investissement, parce qu'il s'agit d'améliorer les services. Les lignes dont on parle, qui sont des lignes qui ont été délaissées, et toutes celles et tous ceux qui les ont prises voient ce que je veux dire en termes de qualité de service, effectivement. Le service est défaillant là-dessus. C'est pas là-dessus que vont aller les entreprises privées. Elles s'en fichent. Par contre, la SNCF devra y aller en améliorant. Comment va-t-elle faire? Et c'est là-dessus que nous voulons des réponses, plus que simplement sur le statut.
Oui, mais justement, puisqu'on est quand même malgré tout sur une émission sur le statut, et vous évoquiez l'esprit de service public, j'aimerais avoir votre réponse à l'un et à l'autre, Arnaud Bichon et Luc Berry, c'est-à-dire est-ce que finalement cet esprit de service public, il ne peut pas être aussi bien porté par des gens qui seront contractuels que par des gens qui auraient ce statut, par exemple ce statut de fonctionnaire. Qu'en pensez-vous, Arnaud Bichon?
Oui, bien sûr. Alors, déjà, je remondis, et ça fait écho à votre question, sur ce que vient de dire Monsieur Béril, c'est bien sûr les fonctionnaires ou les agents contractuels d'une entreprise comme la SNCF ont une mission de service public et donc ils doivent effectivement contribuer à la qualité de ce service auprès du public. Mais, et vous dites, non, les salariés d'une entreprise, c'est différent. Ils sont motivés, ils ont une mission de développer du profit. Mais il n'y a pas de profit si on ne sert pas bien le client. Hein, et donc là, il se trouve que donc je suis enseignant de management et j'ai longtemps enseigné dans un département orienté marketing. Hein, le souci du marketing, le souci, si vous voulez, dans toutes les techniques de gestion adaptées pour les entreprises, c'est vraiment un souci vraiment tourné sur la satisfaction client. Parce que si on ne satisfait pas le client, hein, eh bien l'entreprise périclite, tout simplement. Donc cette distinction, si vous voulez, entre le fonctionnaire qui serait mu par un service public, etc., et de l'autre côté, des salariés qui n'auraient pas cette même vocation, je pense qu'elle n'est pas sérieuse.
Mais hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai la garantie d'emploi à vie, si mes progressions de salaire sont automatiques, je vais moins avoir le souci de bien servir le client, en l'occurrence l'usager des services publics,
Madame Béchon? On peut le craindre. On peut le craindre. Et là, il y a énormément de travaux.
Ça veut dire quoi? Qu'il faut avoir peur de perdre son emploi pour être plus
performant? Non,
c'est
pas la question. C'est pas la question. La question, elle est. Alors, si vous me permettez d'être un petit peu technique sur les aspects de gestion de ressources humaines, puisque là, on aborde une question qui est fondamentale et très intéressante. Si vous voulez, vous aviez, par exemple, l'UIMM, hein, donc dans l'industrie, vous avez
des industries de la métallurgie,
oui,
c'est ça?
Oui. Donc, vous aviez des logiques de gestion de ressources humaines très proches finalement des logiques statutaires du public, c'est-à-dire des logiques fondées sur la notion de poste avec des grilles très normées, des logiques de statut finalement. Hein. Il n'y avait pas l'emploi en vie, mais on était dans des logiques de statut. Et ils ont, il y a maintenant de ça une bonne vingtaine d'années, plus de 20 ans même, ils sont passés à une logique dite de compétences. Et ils sont d'ailleurs, ils étaient précurseurs hein, en France dans ce domaine. Donc un modèle de gestion de ressources humaines qui s'est étendu, qui est devenu presque une mode, hein, on pourrait le dire, mais qui s'est étendu fortement dans le domaine privé. Alors qu'est-ce qui change ? Eh bien en fait, l'élément de, si vous voulez, qu'on gère, ce ne sont plus des fonctions, ce ne sont plus des statuts, ce ne sont plus des postes, mais ce sont des individus. Et oui, hein, la gestion des ressources humaines pourrait finalement s'intéresser aux hommes. Hein, c'est peut-être intéressant. Et voyez, le paradoxe, c'est que dans la fonction publique, on a toujours ce mot, voilà, de solidarité, d'être proche des gens, d'être au service du public. Mais bizarrement, on a une gestion des ressources humaines très bureaucratique, très taylorienne finalement, et très désincarnée. Et donc, je vais laisser la parole, mais je pourrais revenir là-dessus. Cette gestion des ressources humaines. Hein, maintenant, il est montré qu'elle est bien adaptée à des structures bureaucratiques, qui elles-mêmes, ces structures, sont très adaptées à des marchés monopolistiques. Donc, oui, il n'était pas étonnant de voir ce genre de statut, si vous voulez, historiquement, à la SNCF. Sauf que quand on vient sur un domaine où le marché est cette fois-ci concurrentiel, les pratiques de management vont devoir évoluer. Hein. On va être sur des méthodes de management beaucoup plus agiles et nécessitent, si vous voulez, des pratiques de gestion de ressources humaines adaptées, la GRH par compétence.
Voilà, et donc des pratiques adaptées à l'individu, ce qui est contradictoire a priori avec le maintien du statut, Luc Berry. Par exemple, ça interdit d'avoir une rémunération au mérite, ce genre de choses dont on entend beaucoup parler justement dans la réforme de l'État.
Oui, on en entend beaucoup parler comme si ça n'existait pas, ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, on adore enfoncer des portes ouvertes, donc il vaut mieux continuer. La rémunération au mérite existe déjà dans la fonction publique, donc c'est pas vraiment une nouveauté, ça fait quelques décennies que ça existe, hein, donc je le signale au passage, parce que bon voilà. Mais si ça fait de grosses différences hein, sur les avancements d'échelons, on perd beaucoup d'argent quand on n'avance pas au rythme le plus rapide. Hein, bon, donc enfin beaucoup d'argent à hauteur de ce qu'on touche quand on est fonctionnaire. Moi je pense que on peut avoir, enfin ce qui justifie le statut et ce qui justifie effectivement la garantie d'emploi, c'est la nature des missions. Bon. Est-ce que on considère que l'ensemble des services qu'on peut produire relève du marché ou pas ? Ou est-ce qu'on considère qu'un certain nombre de services, parce qu'ils relèvent de droits fondamentaux, ne peuvent pas être traités sur la simple base du marché ? C'est ça le débat de fond qu'il faut qu'on ait. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs les services publics. Les services publics interviennent dans des domaines sur lesquels on estime que se jouent un certain nombre de droits fondamentaux, ou de fonctions régaliennes de l'État, de droits fondamentaux pour les citoyens, et on considère qu'à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être régi simplement par la loi de l'offre et de la demande. Parce que effectivement, il faut satisfaire le client, surtout le client riche, et surtout sur le marché sur lequel on se trouve. Bon, mais le client moins riche et moins nombreux, il n'est pas très intéressant pour une entreprise qui fait des choix, effectivement, des choix de stratégie commerciale et industrielle qui visent certaines catégories de marché. Le propre du service public, c'est qu'on ne vise pas certaines catégories. On doit rendre un service à la totalité de la population. C'est en ce sens que c'est radicalement différent. Alors après, ce qui justifie la garantie d'emploi, c'est la permanence des missions. On n'a pas décidé que les fonctionnaires devaient avoir un emploi garanti à vie, je ne sais pour quelle raison. C'est parce qu'on estimait que sur ces missions-là, il fallait une garantie sur l'ensemble du territoire et une permanence de l'activité. Et je rajoute quand même que, concernant les fonctionnaires, mais c'est vrai pour tous les salariés des entreprises publiques, les agents des entreprises publiques, le rapport au public et donc le rapport à l'État est un rapport de valeur à l'État aussi, pas de valeur financière seulement, de valeur. On représente la République. Et donc, on est astreint dans la façon dont on traite sa clientèle, entre guillemets, en l'occurrence les usagers du service public, à un certain nombre d'obligations. Et je voudrais dire aussi que le statut est un sacré avantage pour l'employeur. Quand on est sous statut, on est obligé, c'est ce qui permet notamment, par exemple, à peu près, d'assurer la pérennité d'un service sur l'ensemble du territoire. Tous les territoires ne sont pas forcément très attractifs. Tous les territoires, pourtant, doivent être irrigués par le service public, et il doit y avoir des fonctionnaires qui le fassent. Donc il y a des contraintes qui sont liées au statut. C'est pas la même chose, c'est pas la même relation de travail qu'on a quand on est tout simplement titulaire d'un contrat de travail, mais c'est pas le même objectif non plus. Donc il faut réintroduire cet élément-là, hein, sur qu'est-ce qui est garanti aux citoyens ou pas. Et le citoyen n'est pas seulement un client, il est aussi en général un client, mais pas sur les mêmes, on ne parle pas des mêmes données. Donc il faut établir cette distinction, je pense qu'elle est importante. On peut rediscuter du formatage du service public. Est-ce que, d'ailleurs, il a été reformaté? Les télécommunications ont été pendant tout un temps considérées comme relevant de l'intérêt général. On a privatisé, de fait, on y est arrivé maintenant, ce système-là. Je fais observer qu'il y a des zones entières qui ne sont pas couvertes, et pas que pour des raisons géographiques.
Et bien justement, à propos des télécommunications, je vous propose d'écouter un reportage d'Antenne 2. Nous sommes en mai 1996. À l'époque, on ne parlait pas d'Orange, mais on parlait de France Télécom. Et on est au moment de la loi qui va changer le statut de l'entreprise, et donc aussi le statut de ceux qui y travaillent.
Ils voulaient se faire entendre jusqu'au palais de l'Élysée. Ils ont dû s'arrêter place de la Concorde. Une centaine de militants qui refusent le changement de statut de France Télécom. Adopté aujourd'hui en Conseil des ministres, le projet de loi transforme l'établissement public en société commerciale. L'entreprise qui affiche 9 milliards de bénéfices pourra ainsi être partiellement privatisée dès le début de l'année prochaine.
On va offrir ces bénéfices à des intérêts privés, alors que pour nous, ça doit servir à améliorer le service public. Et le deuxième aspect, c'est la question de l'emploi. Nous pensons que derrière ce projet de loi, c'est des suppressions massives, des dizaines de milliers de suppressions massives d'emplois à France Télécom dans les années qui viennent.
Et dès cette année, France Télécom va mettre en place un système de départ anticipé. Les salariés âgés de 55 ans pourront partir en pré-retraite et toucher 70% de leur salaire. Ce dispositif devrait concerner 25 000 personnes et permettre l'embauche de 3 000 jeunes par an.
Ils vont travailler désormais dans une société qui sera gérée comme une entreprise du secteur privé et qui pourra affronter la concurrence à armes égales, c'est-à-dire qu'ils ont la perspective de travailler dans une entreprise qui sera concurrentielle sur le marché mondial.
Les conditions de recrutement vont changer progressivement. Dans leur grande majorité, les nouveaux embauchés vont désormais rentrer à France Télécom avec un statut de droit privé. Aucun fonctionnaire ne sera plus recruté à partir de 2002.
Voilà, reportage qui date de mai 1996, donc sur le changement de statut de l'entreprise France Télécom. Celui qu'on entendait, le dernier témoignage, c'était François Fillon, c'était le ministre qui était en charge à l'époque de cette réforme. Arnaud Bichon, est-ce que justement ce qui s'est passé à France Télécom, ça vous paraît être un exemple à suivre, par exemple, pour réformer un certain nombre d'entreprises de services publics aujourd'hui? Et est-ce que derrière la question du statut, la vraie question, elle n'est pas là, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui relève du service public, qu'est-ce qui n'en relève pas? Et comment faire entrer un certain nombre d'entreprises dans le secteur concurrentiel?
Alors, un exemple, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est certainement une entreprise intéressante à étudier, à analyser, hein, pour en tirer des leçons. Donc, et d'ailleurs, ça a été fait. Il y a eu énormément de travaux de recherche en sciences de gestion sur le cas France Télécom, sur la façon dont l'entreprise a... parfois intelligemment, accompagner la transformation des agents, puisque c'était quand même extrêmement difficile, hein, notamment parce que il y avait certains salariés qui étaient du domaine technique, qui ont été amenés sur des fonctions de type commercial. Hein, donc on a eu des écarts de compétences extrêmement difficiles. Et là, vous me permettrez de reboucler avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui a fait en partie le succès de cette transformation, c'est le fait d'avoir mis en place une gestion par compétences. C'est-à-dire que petit à petit, hein, on a essayer de détecter chez les individus, parce que c'est ça, hein, la gestion par compétences. C'est pas une logique de profit, c'est pas une rémunération au mérite de la performance, etc. C'est tout simplement une gestion qui va s'intéresser aux compétences mobilisées dans leurs activités par les salariés. Et donc ça, si vous voyez, si vous gérez le personnel à travers les statuts qu'ils occupent, vous n'avez pas une bonne connaissance de leurs compétences réelles. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très simple. Dans mon administration, hein, donc administration d'État, hein, à l'université, sont recrutés sur concours des concours qui ne sont pas simples, hein, qui ne sont pas faciles, les assistantes ou assistants administratifs. Donc, des concours qui reposent essentiellement sur des synthèses de documents, etc. Donc, moi, je suis très content, hein, en tant qu'universitaire, parce que ça me tient à cœur, je suis très content d'avoir des assistants et des assistantes qui rédigent un français parfait, sans aucune faute d'orthographe, etc. Mais, d'un seul coup, cette personne-là, recrutée sur ce type de concours, on va la mettre, un jour, sur un poste de comptable, comptabilité publique, quelque chose qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne connaît pas. Et donc, elle va se former là-dessus. Elle va se former là-dessus, elle va développer des compétences, elle va, peut-être qu'on va lui donner quelques petites formations, ou pas, hein, il va falloir qu'elle se débrouille, voilà. Donc, mais, en fait, dans le cadre de son travail, on va la figer à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que une fois qu'elle est formée, on n'a pas envie, hein, de la renvoyer, par exemple, sur un poste de communication, parce que on ne connaît pas, hein, si elle, on ne sait pas si elle sera capable de le faire. Mais vous voyez, si j'avais une gestion par compétences, ce que je gère, ce ne sont pas les qualifications, c'est-à-dire le concours qu'elle a réussi, hein, elle ne serait pas évaluée, gérée à travers cette qualification. Elle serait gérée à travers les compétences qu'elle détient, et donc on les connaîtrait. Et donc, on peut, hein, dans ce cas-là, organiser une belle mobilité dans l'entreprise, dans l'organisation.
Luc Berry.
Moi, à l'UNSA, nous ne défendons pas, nous, un principe de gestion dans la fonction publique qui serait un système de gestion purement bureaucratique. On peut, dans le cadre du statut, et c'est un de nos objectifs revendicatifs d'ailleurs, concevoir une gestion qui soit un peu moins, j'allais dire, antidéluvienne que celle qui est encore trop largement utilisée. La fonction RH, relations humaines, a été introduite, y compris dans la fonction publique, mais souvent encore trop comme un titre, plutôt comme un fait et comme un acte. Et nous sommes un syndicat qui nous battons pour dire, entre autres, que quand on acquiert de la qualification, on n'acquiert pas de la qualification simplement parce qu'on a un diplôme, mais aussi par sa pratique professionnelle, on acquiert des compétences, et d'ailleurs on transpose ça aussi d'ailleurs dans la formation initiale et continue, où nous sommes battus pour qu'on reconnaisse pas simplement un sens de savoir, mais aussi de compétences. Bon. Donc, moi j'ai pas de désaccord avec ça. Statut, ça veut pas dire... pour reprendre une image qu'avait pris, je crois, un ancien président de la République devant la magistrature, des petits poires rangés, etc., en visant les magistrats. C'est pas du tout ça. Bon. Donc, on peut très bien... Alors, après, le concours, à quoi sert-il le concours ? Le concours, effectivement, c'est un exercice tout à fait formel, bon, qui sanctionne quand même un certain niveau. Dans un concours, on peut les faire évoluer, c'est pas forcément que de l'écrire, on y a introduit souvent d'ailleurs maintenant des oraux, etc., où justement on peut apprécier d'autres compétences que simplement un savoir académique, voilà. Mais ça vous donne quand même un autre aspect, qui est un aspect de neutralité du recrutement, mais qui va avec le statut. Bon. Quand on a introduit ces éléments-là, je rappelle quand même qu'on vient d'une fonction publique qui a une histoire. Mais c'est pas si éloigné quand on regarde un certain nombre de pays. Nous avons une fonction publique qui est souvent enviée pour sa compétence, justement, qui est enviée aussi pour sa neutralité et sa capacité à ne pas à résister à la corruption, etc., etc.
Bon. Est-ce que ça, justement,
c'est
en faisant
beaucoup lié à ces questions-là.
Est-ce qu'en faisant appel, Luc Berry, à davantage de contractuels, cette dimension-là, qui est finalement l'indépendance de la fonction publique, elle peut être fragilisée parce que justement, il n'y a peut-être pas le statut protecteur. Du coup, quand on est contractuel, on n'a pas cette protection, et donc ça peut-être soumettre une partie de la fonction publique justement à des pressions, puisque ce statut, il est aussi là pour ça, c'est-à-dire pour protéger des pressions.
Moi, je pense effectivement que c'est une des données du problème. Les contractuels donnent plus, entre guillemets, de souplesse sur un certain nombre de recrutements. Je prends des cas de type. On peut recruter un contractuel ou une contractuelle parce qu'on a un besoin temporaire de remplacement, etc. Comme une entreprise a recours à l'intérim ou des choses ou à un CDD, par exemple. Donc ça existe aussi dans la fonction publique. Il y a presque 20%, un peu moins de 20% des fonctionnaires,
je crois, c'est ça,
17 et quelques pourcents, qui sont des contractuels. Donc là aussi, on parle de choses qui existent. C'est pas bon, voilà. Parfois, on est obligé de recourir à l'embauche de contractuels parce que le statut, contrairement à ce qu'on dit, malgré l'emploi garanti à vie, comme on dit, n'est pas du tout attractif. Vous avez parfois, je vais vous prendre des exemples concrets, lorsque vous cherchez à former des jeunes dans la joaillerie aujourd'hui, Vous avez besoin d'avoir des professionnels, des joailliers professionnels. Si les joailliers professionnels, vous leur proposez de passer le concours pour être prof de lycée professionnel, vous n'en trouverez pas un qui le fera, parce qu'ils sont beaucoup mieux payés. Ils ont en général, comme ils sont très qualifiés, garantie d'emploi sur un autre plan, eux, même si c'est des gens de droit privé. Donc on leur propose souvent un contrat, parce qu'il est dérogatoire au salaire qui reste quand même assez bas, qui caractérise la fonction publique et qui caractérise plus généralement d'ailleurs les entreprises à statut, où il y a une modération salariale qui est souvent beaucoup plus importante à qualification égale, et c'est une des contraintes du statut. C'est-à-dire qu'en contrepartie, effectivement, d'une garantie d'emploi, on a aussi des contraintes qu'on n'a pas sur d'autres statuts. Et on a parfois, d'ailleurs, un mode de gestion extrêmement bureaucratique et peu valorisant qui caractérise encore trop la fonction publique et parfois les entreprises publiques.
Arnaud Bichon, ce qu'on peut lire sur le portail officiel de la fonction publique, c'est que le statut, c'est d'abord une protection des citoyens avant d'être une protection des fonctionnaires, puisqu'en protégeant les fonctionnaires de l'arbitraire, il évite, ce statut, l'instrumentalisation de l'administration à des fins partisanes. Est-ce que ça ne justifie pas qu'on maintienne au maximum ces statuts, ou bien est-ce que vous considérez que cette protection-là, aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité ?
On ne peut pas rejeter totalement cette finalité, hein, cet objectif qui est important. Mais elle entre en tension. Elle entre en tension avec la possibilité de manager. Puisque manager des personnes, c'est nécessairement introduire un petit peu d'arbitraire. Hein. C'est-à-dire que quand vous gérez quelqu'un, vous allez l'influencer, vous allez lui faire faire des choses, etc. Hein. Donc là, si vous voulez, on entre, plutôt que de l'arbitraire, mais on entre dans de la subjectivité, vous voyez. Donc on entre dans des choses qui ne sont pas purement objectives. Et si vous voulez, bien sûr, il y a cet effort d'objectivation, hein, on va dire, et qui est, je dirais, louable, hein, important, mais ça entre en tension avec la nécessaire, si vous voulez, souplesse dont nécessite un corps social. Et c'est là, et Monsieur Béril souligne à juste titre que la gestion publique est parfois trop bureaucratique, mais c'est le statut qui crée cette rigidité, et notamment l'élément que vous soulignez, c'est-à-dire que en voulant préserver totalement, si vous voulez, de tout arbitraire, eh bien, on va confiner, on va solidifier, on va déshumaniser aussi, en quelque sorte, le travail et les relations sociales.
Un mot de conclusion, Luc Berry, le statut des fonctionnaires, le statut des cheminots, pour vous, il a encore de beaux jours devant lui ?
De beaux jours, je ne sais pas, parce que...
Ou de longs jours, en tout cas.
L'actualité politique va nous le dire. Si on mène bien ce débat public, comme on a tenté ici de l'aborder, c'est-à-dire sur le fond des missions, je crois que c'est ça qui est fondamental pour les citoyens. Moi, je considère qu'il est toujours d'actualité, parce que je considère que tout ne doit pas être régi par la loi du marché. Je ne suis pas du tout un étatiste forcené. Je ne suis pas favorable à l'économie administrée, rassurez-vous. Mais il faut qu'on prenne au sérieux ces questions-là. Je rappelle quand même que l'État de la France est une France extrêmement clivée, avec des inégalités très profondes qui existent, et que la question de la cohésion du pays est aussi un enjeu citoyen, un enjeu politique, et que les services publics ont aussi cette fonction d'y répondre. Il ne faut pas le traiter comme simplement un lieu de gaspillage de l'argent public, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier que cette mission, elle est fondamentale pour la cohésion du pays.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Luc Berry et Arnaud Bichon, discussion que vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez la réécouter, vous pouvez télécharger l'émission. Merci à l'équipe du Grain, Isolte Sicard, Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Anthony Thomasson.